C'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Hawick, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 9:04, Radio London Time, the station with kicks on 266.
Dans les années 60, les postes de radio de l'Europe du Nord vont vibrer de nouvelles voix, de nouveaux sons, de nouvelles musiques. On les a appelés Offshore Radio, Pirate Radio ou Marine Broadcasters. Mais quelles que furent les expressions par lesquelles on les désignait, ces DJ de la haute mer, qui opéraient depuis des bateaux ou des forts marins abandonnés, ont écrit d'incroyables pages d'aventures radiophoniques et maritimes.
L'histoire des radios offshore est entrée dans une nouvelle phase en cette année 1965. Une phase de paradoxe. Tout d'abord, le phénomène reste très régional. Il y a une radio maritime au large des côtes suédoises, une dirigée vers la Hollande, trois navires proches des eaux territoriales britanniques, ainsi que deux radios qui occupent d'anciennes structures militaires dans l'estuaire de la Tamise, et d'autres projets qui ne concernent que l'Angleterre. Aucun autre pays disposant d'une façade maritime ne semble pour l'instant touché par le phénomène. Le second paradoxe réside dans le fait que d'un côté, Radio London et Caroline se sont lancés dans un duel pour le leadership en Grande-Bretagne, mais face à elles, le gouvernement semble désarmé, se cantonnant à menacer et à invoquer une loi européenne. Il est frappant de constater que l'ensemble des radios britanniques, et en particulier les deux plus puissantes, semblent ne plus se soucier des menaces proférées par le ministre des Postes et le Premier ministre. L'un des responsables de Radio London a même déclaré qu'étant donné l'audience des radios flottantes, le gouvernement ne pourra plus aller à l'encontre des goûts du public. Les responsables de ces stations espèrent en fait que le gouvernement réfléchit à une loi pour autoriser des radios commerciales à terre. Et bien évidemment, ils se sentent légitimes pour prétendre à l'octroi d'autorisation d'émettre depuis le territoire britannique.
Spy or that boy or whatever boy. Anyway, it's a gorgeous record. It's a flip side from the Beatles, and I think it's on the flip side of I Want to Hold Your Hand. Just a minute, I'll just find that one out for you here. Yes, yes. It's on the flip side of I Want to Hold Your Hand. Both Lennon McCartney compositions, both absolutely delightful. We treasure that record. We really do. I can tell you.
Wherever wheels are turning, no matter what the load. The name that's known is Firestone, where the rubber meets the road. For a job to be done or a weekend treat, for a jet to land or a date to meet. Wherever wheels are turning, no matter what the load. The name that's known is Firestone, where the rubber meets the road.
Firestone Tires, your guarantee of quality and service.
Stop. Thank you very much. This was, what?
Ben Coney, Tony could see you now.
If Ben Coney could see me now, he'd have a fit. He'd have two, I guess. You think so? 22 and a half. Oh, he'd have a big fit then. 22 and a half minutes until 7 o'clock, ladies and gentlemen. Respect for the record. It's fantastic on this.
Oh, it was gorgeous. The way that sailed across the studio when we said we treasure that record.
Yes, I love that.
The Daily Mail, mercredi 22 septembre 1965. Radio City passe à Caroline. Radio Caroline va reprendre Radio City, qui opère depuis un fort militaire désaffecté dans l'estuaire de la Tamise, a annoncé hier soir le bureau de vente de Caroline à Londres. Le communiqué affirmait que cela donnerait au réseau Caroline une couverture totale du Royaume-Uni. Dans le sud-est, le programme Caroline serait diffusé sur les ondes moyennes de 199 et 299 mètres, avec un signal beaucoup plus fort. La réalité est un peu plus complexe. En fait, Reg Calvert de Radio City a été approché par Alan Crawford et Oliver Smedley, qui sont à la tête de Project Atlanta, en charge du programme de Radio Caroline Sud. Crawford et Smedley sont intéressés par Shivering Sun car le lieu pourrait leur permettre d'augmenter à peu de frais la zone de diffusion de Caroline dans le sud de l'Angleterre. Le Miamigo, le bateau émetteur, pourrait se déplacer et compléter une zone de diffusion d'abord desservie depuis Shivering Sun. Ce que Reg Calvert ne sait pas, c'est que Smedley et Crawford ont d'abord tenté de s'implanter sur Rough Tower, puis sur Fort Knockjohn. Ils ont été éjectés de ce dernier par les hommes de Roy Batts, ceux-là même qui ont réservé le même sort à l'équipe de Radio City. Project Atlanta et Radio City entrent donc en négociation en ce début d'automne 1965. Cet accord prévoit l'installation d'un émetteur plus puissant sur Shivering Sound fourni par Project Atlanta, avant une future installation de l'équipe de Caroline. Mais lorsque l'émetteur arriva sur le fort, l'équipe de Radio City découvrit d'une part qu'il n'était pas neuf, et d'autre part qu'une partie du matériel était apparemment tombée à la mer. Il en résulta qu'il ne fonctionnait pas correctement. En fait, il avait été acheté d'occasion à une station de radio américaine par Oliver Smedley. Cet émetteur avait 25 ans d'âge, et il deviendra quelques mois plus tard la pièce maîtresse d'un désaccord qui va conduire à un drame constituant sans doute la page la plus noire de l'histoire des radios offshore.
Come on, Papa's got a brand new bag, James Brown and the Famous Flames. 9:50 now on Radio City, that's the Basildon Request Show running right through until 11 o'clock. Remember, every Sunday morning it is 9:30 until 11. Would you play for my granddad who thinks the Rolling Stones are the greatest? Satisfaction. Well, nice to hear that one or two granddads like the Rolling Stones, I must say. And this comes with love from granddaughter Amanda, who, it says, thinks her granddad is the greatest. You don't say, Amanda, who your granddad is. You don't even give an address, which is rather unfortunate. Anyway, I hope granddad is listening right now.
Daily Mail du 4 octobre nous apprend que l'ambiance n'est pas bonne du tout à bord du Miami Go. The Daily Mail, lundi 4 octobre 1965. 5 disc jockeys démissionnent à la suite d'une mutinerie à Radio Caroline, par Douglas Marlborough. Une mutinerie a éclaté à bord de Radio Caroline, le premier navire radio-pirate de Grande-Bretagne. 4 disc jockeys, Mike Allen, 34 ans, Gary Camp, 30 ans, Roger Gale, 22 ans, et Ion Sidney, 26 ans, sont partis et Tony Blackburn, 22 ans, le disc jockey le plus populaire de la station, rejoindra Radio London le mois prochain. Monsieur Allen, un auteur-compositeur de premier plan, a expliqué hier soir « Je ne serai plus un crétin hurlant, ils veulent que vous criez à tue-tête sur les adolescents ». Monsieur Camp, un ancien professeur, a déclaré « J'ai été renvoyé après m'être moqué des publicités ». Monsieur Gall et Monsieur Sidney sont partis après l'introduction d'un programme de service qui réduit leur congé à terre. Les disques jockeys du navire au large de Frinton, Essex, passaient autrefois 2 semaines en mer et 2 semaines à terre. Maintenant, ils travaillent 2 semaines et ont 1 semaine de congé. Monsieur Allen, père de 2 enfants, a déclaré « Ma femme n'aimait pas que je sois si loin » et mes enfants m'ont écrit pour me demander quand ils allaient me revoir. Je suis également mécontent de la nouvelle politique musicale de Caroline. Je ne suis pas d'accord avec le fait qu'elle joue de la musique pop tout le temps. Monsieur Camp, père de 4 enfants, qui passera une audition à la BBC cette semaine, a déclaré « J'ai envoyé une publicité pour des cigarettes 4 ou 5 fois. Une fois, j'ai eu une quinte de tout, l'agence de publicité n'a pas aimé. Je pense aussi que la politique pop est une erreur. » Il pourrait devenir disque jockey pour Radio Scotland, un navire radio qui doit commencer à émettre au large de Dunbar, East Lothian, cette année. Monsieur Alan Crawford, le directeur général de Caroline, a déclaré « Nous sommes très satisfaits de notre politique musicale. Nous sommes la station qui a le plus d'audience auprès des femmes au foyer et nous avons l'intention d'augmenter ces chiffres. Les 4 seront remplacés par le Canadien Mel Howard et Dave Lee Travis de Manchester. » Ce que cet article révèle surtout, c'est l'évolution très rapide de ces médias et de l'état d'esprit qui y règne. Il est intéressant de remarquer que l'arrivée d'une nouvelle radio, Radio London, a propulsé ce microcosme fraîchement né dans une autre dimension. Sous la contrainte, Caroline est obligée de se formater, et les DJ doivent se plier à de nouvelles règles. On voit aussi que les conditions de travail commencent à peser. L'enthousiasme des débuts avait relayé au second plan les conditions de vie à bord des navires. Cloîtrés dans un environnement exigu et dans une certaine promiscuité, et en plus soumis aux aléas d'une météo qui chahute parfois violemment les bateaux, ces conditions commencent à peser dès lors que les DJ se sentent contraints par la discipline du formatage.
Well, can't look forward to seeing the Hill Frog, whatever that might be. Anyhow, hello everyone, welcome to the big lineup. Tony Blackburn here with you, and nice to be with you again. Sorry for blowing my nose just before the news. Let's away with my first record of the day. Number two sound from Chris Andrews.
Her yesterday, man.
It wasn't me, it was Norman St. John, really.
I'm her yesterday, man.
En cette fin d'année 1965, les forts marins sont de plus en plus convoités et une intense activité de prospection se développe autour de ces anciennes structures militaires abandonnées. Red Sand 4 et Shivering Sand abritent déjà des radios et Nocturne vient d'être investi. Oliver Smedley et Alan Crawford de Radio Caroline convoitent Shivering Sand après avoir cherché à s'implanter ailleurs, sur le fort de Rough Tower notamment. Mais une autre équipe est aussi à la recherche d'un lieu fixe. Il s'agit de deux hommes d'affaires de l'Essex, George Short et Eric Sullivan. Après avoir lorgné sur Fort Nocturne, puis sur Rough Tower, ils arrêtent leur choix sur Thunkhead. Et depuis cet emplacement, ils comptent lancer une radio et une télévision. Les premiers essais de Tower Radio ont lieu de façon discontinue à partir du 22 octobre. Et c'est George Short lui-même qui prend le micro.
Tower Radio testing. Here's Tower Radio testing. I'm 216 meters in the medium wave band. Tower Radio testing. Tower Radio will bring radio advertising within the means of every shopkeeper. For full details of our working policy, contact Vision Projects, Trinity Street, Colchester. This is Tower Radio testing. Tower Radio, the first localized radio station in Britain.
Non loin de là, sur Fort Nocturne, l'équipe de Roy Batts a remis en état deux des générateurs électriques du fort et aménagé un studio dans l'un des anciens entrepôts. Radio Essex débute des essais de transmission le 27 octobre et ses programmes réguliers commencent le 7 novembre. L'émetteur utilisé est de faible puissance, mais il correspond aux objectifs de cette nouvelle radio, qui se présente avant tout comme une station locale. Radio Essex n'ambitionne pas de concurrencer les deux leaders, mais cherche plutôt une proximité avec les habitants de l'Essex et vise une publicité locale.
Hey, what's up, Beverly, your famous side? Number 11 this week in the Radio Essex. Rolling 20 from Tony Jackson on CBS 15 before 2. And it's all down to Neil Christian on the strike level on a thing called That's Nice, darling, that's nice.
Some kind of feeling.
Dans une interview pour le Billboard du 6 novembre 1965, Alan Crawford estime que les pirates ne pourront survivre que 2 ou 3 ans dans leur forme actuelle. Personne n'a jamais voulu que les navires radio soient une chose permanente, et je ne nous vois pas continuer indéfiniment sous cette forme. C'est trop difficile et trop cher d'opérer depuis la mer. Ce n'est pas une lutte pour continuer, c'est évidemment rentable, mais nous ne gagnons pas des millions comme beaucoup de gens semblent le penser avec ressentiment. Il y aurait beaucoup plus d'argent à gagner sur Terre. Quoi que dise le gouvernement maintenant, des licences seront accordées à l'avenir. Les autorités ont déjà perdu la bataille pour nous faire taire. Il n'y aura pas de retour en arrière à l'époque où il n'y avait pas d'alternative à la BBC. Philip Birch, directeur de Radio London, est plus mitigé. D'un côté, il a noué des contacts avec des annonceurs publicitaires américains dans le cas où le gouvernement britannique prendrait des dispositions pour verbaliser les entreprises du pays qui achètent de l'espace publicitaire sur les radios offshore. D'un autre côté, toujours dans le même numéro du Billboard, il déclare être satisfait de la situation politique actuelle. Selon lui, la faible majorité dont dispose le Parti travailliste, ainsi que la perspective des prochaines élections, devrait dissuader le Premier ministre Wilson et son gouvernement d'introduire une loi anti-radio offshore. Et si c'est le Parti conservateur qui remporte le prochain scrutin, sa position très favorable au secteur privé promet une évolution positive de la loi sur les radios commerciales.
From the Radio London Weather Tower.
Wet or dry, hot or cold, Big L weather check.
Well, it's wet and dull. How about, well, that's close to wet and dry anyway. Wet and dull weather will cover the country to begin with. However, colder weather moving south will convert to rain, convert the rain into snow and sleet, which will become very heavy in the north. Brighter weather with sunny intervals may occur in some places later and is going to be a very bright spot on your dial. For the next 3 hours, we present TW, the only man in the world that believes in Superman.
Yes, it's the bright spot in your dial now, going right through till 12 noon. Thanks very much, Dave Cash. We'll be seeing you a little later on. And we go right through till 12. Many features today, ladies and gentlemen, boys and girls. Resby time at 10:15. The answer to the Wonder Who competition and coffee break at 11. And, of course, terrific music all the way through. Let's get the show on the road musically in professional style as usual. 1.5 minutes past 9 o'clock. The Stones!
Le spectre d'une implication de Radio Caroline dans le conflit qui oppose le gouvernement britannique à celui de la Rhodésie refait surface dans la presse quelques jours après que le gouvernement rhodésien ait proclamé unilatéralement l'indépendance du pays. The Daily Mail, vendredi 19 novembre 1965. Le bateau pirate de la pop dit non à Smith. Radio Caroline a refusé hier d'accepter environ 50 000 livres de publicité du gouvernement rhodésien. Une agence de publicité londonienne, agissant pour le compte du gouvernement de M. Ian Smith, a déclaré aux responsables du bateau pirate de la pop que la publicité pourrait contenir de la propagande. M. Ronan O'Reilly, 25 ans, directeur de Radio Caroline, a déclaré hier soir « Nous avons refusé. Nous ne voulons pas nous mêler de politique. »
That's right, baby, you're tuned to your number one station, that's a Radio Caroline.
Time for a tippin', Caroline's tippin', the Hooten Biscuit Chocolate Bar.
Sweet, juicy raisins and crisp little biscuits, covered in smooth milk chocolate. Fries tippin', sixpence and a shilling.
Fries tippin', the Hooten Biscuit Chocolate Bar.
And that takes us to the number two sound from the USA, and it sounds like this. It's Barry Maguire on the Eve of Destruction.
Le rapprochement entre Radio City et Caroline South prévoyait la fusion des deux régies publicitaires et le relais par Radio City de certaines émissions de Caroline South. En échange, Project Atlanta devait assurer certaines dépenses de fonctionnement de Shivering Sand. Les responsables de Caroline South espéraient ainsi redresser la barre des recettes commerciales qui étaient en chute libre. Les revenus publicitaires de Radio Caroline provenaient alors majoritairement des campagnes nationales. Et si Caroline North parvenait encore à séduire des annonceurs régionaux, ce n'était plus du tout le cas pour le programme Sud qui voyait tous les contrats commerciaux captés par Radio London. Malheureusement, les espoirs fondés par Oliver Smedley et Alan Crawford sur ce rapprochement furent déçus. Non seulement les recettes publicitaires de Caroline South n'augmentèrent pas, mais elles poursuivirent leur chute. Et en plus, un différend naquit entre les deux stations. Calvert se plaignant que Project Atlanta n'avait pas honoré certaines dépenses qui lui incombaient. La relation entre les deux équipes dirigeantes devenait de plus en plus tendue. La situation délicate de Caroline South aboutit en décembre à sa prise de contrôle par la société de Ronan O'Reilly. Alan Crawford quitta le conseil d'administration et les deux radios Caroline allaient théoriquement être gérées par la même entité. En cette fin d'année, la station connaît à nouveau une vague de départ. Trois DJ quittent le Miami Go, dont l'une de ses voix les plus importantes, Kate Skew. Ce DJ est considéré comme ayant été à l'origine de la popularisation en Grande-Bretagne de la version des Byrds du titre de Bob Dylan, Mr. Tambourine Man, qui atteindra la première place des charts anglais. La version des Byrds paraît en avril 1965. Il s'agit du premier 45 tours de ce groupe pionnier du style folk rock, emmené par le guitariste et chanteur Gene McGinn, et qui compte aussi parmi ses membres Gene Clark, Chris Hillman et David Crosby, qui deviendront tous des figures importantes de la musique américaine. Catskew a sans doute eu une belle intuition, et CBS, la maison de disques qui a sorti ce 45 tours, lui offre l'opportunité de présenter le CBS Record Show sur Radio Luxembourg à partir de janvier 1966. À l'époque, les maisons de disques sponsorisaient parfois certains programmes radiophoniques.
We'll call Mr. Tambourine Man by the birds. But it has often lurked somewhere, I don't know where it is in fact. So we'll fade out with the old theme tune by the Golden Gate Strings. Thank you very, very much for everything over the past fortnight. All the presents, the letters and everything else. We love you madly and, well, thank you. Goodbye. Get this one in the letter that says here, cheers for now, screams for later.
Deuxième quinzaine du mois de décembre 1965, le ministre des Postes britannique Anthony Wedgwood Benn fait une nouvelle déclaration menaçante à l'égard des radios offshore. Dans son viseur se trouvent particulièrement Radio City et Radio 390 qui occupent des forts marins situés dans les eaux territoriales. Aux accusations d'utilisation de fréquences non attribuées, Ted Albury, dirigeant de Radio 390, fait observer que de nombreuses radios de par le monde utilisent des fréquences qui ne leur ont pas été attribuées par le plan de Copenhague. Il cite notamment The Voice of America, des stations russes et est-allemandes, ainsi que Radio Vatican et quelques autres. Albury conclut qu'il est prêt à aller en prison plutôt que de céder aux intimidations du ministre des Postes. Ronan O'Reilly a quant à lui répondu à Anthony Wedgwood Benn que si la stratégie du gouvernement était un plan d'asphyxie des navires, il pourrait se procurer de la nourriture, du carburant et autres denrées depuis un autre pays, et de la publicité grâce au bureau de Caroline aux États-Unis. C'est dans ce contexte que le 31 décembre 1965, une huitième station de radio privée arrive sur les ondes.
On 242 meters in the medium wave band, this is Radio Scotland.
And this is Radio Scotland, 242 meters on your dial, broadcasting a test transmission. Our frequency is 1.25 megacycles, and our power is 10,000 watts. We produce this power in normally 20,000 watts, that is, in two 10,000 watt transmitters, and modulate 100% on peaks by a system of phase-to-altitude modulation.
L'histoire de cette nouvelle venue débute en octobre 1964, lorsque des investisseurs écossais créent une société dont le but officiellement déclaré est de demander des licences d'émission dans les principales villes d'Écosse lorsque la loi le permettra. Mais on comprend vite qu'en réalité, leur but est de créer une radio flottante. Durant l'été 65, Tommy Chills, le principal promoteur du projet, localise un bateau en Irlande, le Comet, qu'il considère comme adapté à l'accueil de la future Radio Scotland. Dépourvu de propulseur, le bateau fut remorqué jusqu'à Guernesey pour recevoir de nouveaux moteurs et être transformé en navire radio. C'est le Glasgow Evening Time du 9 novembre 1965 qui officialise l'arrivée prochaine de la nouvelle station. Le remorquage du Comet depuis les îles anglo-normandes jusqu'à Dunbar, sur la côte est de l'Écosse, prit plus de temps que prévu à cause d'une rupture du câble de remorquage. Ce n'est qu'à l'aube du 30 décembre que le navire atteignit son lieu de mouillage. Le temps pressait, car les responsables de Radio Scotland voulaient ouvrir l'antenne pour la fête du Hogmanay qui célèbre le dernier jour de l'année. Il n'y avait plus de temps pour des essais de transmission prolongés. Initialement, les programmes devaient débuter à 22h30 le 31 décembre. Le studio fut installé en un temps record, un bref essai de transmission fut effectué et c'est finalement une dizaine de minutes avant minuit que Tommy Childs ouvrit son micro.
On 242 meters in the medium wave band, this is Radio Scotland.
Good evening. This is a proud moment for me, and indeed for all of us here, for after many months of trial and tribulation, Radio Scotland is now a floating reality. Thanks to the skill and ingenuity of a dedicated band of radio engineers, and the loyalty of our team, we have been able to convert a former Clyde-built lightship, the Comet, into one of the most modern offshore broadcasting stations in the world. Now, our aims are simple and straightforward: to provide a new exciting form of entertainment radio, and to offer advertisers a new, simple and economic medium in which to sell to millions of homes in Scotland and in Northern England.
I'm for you, I'm Radio Scotland calling you. Tell them about the Radio Scotland station, then I'm good for you. Who has all the latest records? Radio Scotland leads.
C'était Les DJ de la Haute Mer, 11e épisode.
I'm for you, I'm Radio Scotland calling you. Tell them about the Radio Scotland station, then I'm good for you.
Don't you miss your favorite program? Doesn't matter where you are.
Radio Scotland calling you. Turn around to Radio Scotland station, then I'm through for two.